La force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique sera bientôt équipée des drones de type Phobos. Deux soldats des forces d'occupation américaines ont été la cible d'une attaque dans la banlieue est du gouvernorat de Deir ez-Zor en Syrie. Et ce lundi 27 avril débute au Burundi la campagne électorale pour le triple scrutin prévu le 20 mai, élection des députés et des conseillers communaux, mais également celle du président de la République. C'était le titre. En voici le journal. La force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, sera bientôt équipée des drones de type Phobos, a-t-on appris du commandant de l'unité des drones de cette force. Les représentants de la force terrestre, du CGRI et ceux du ministère de la Défense ont pris part à des réunions pour discuter des drones Phobos, a déclaré dimanche 26 avril le commandant de l'unité de drones, le général de brigade Akbar Karimlou. Nous examinons tous les paramètres et les caractéristiques du drone Phobos pour que nous puissions exploiter ces drones dans les zones d'opération, a-t-il indiqué. Concernant le drone iranien Mohajer 6, le général de brigade Karimlou a déclaré « Il s'agit d'un des meilleurs drones fabriqués par le ministère de la Défense, conformément aux critères internationaux. La mise en service du drone Mohajer 6 au sein de l'unité de drones de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique a donné naissance à d'importantes évolutions. Par exemple, nous pouvons faire voler nos drones pendant plus longtemps et notre présence dans les zones d'opération a été ainsi renforcée. Grâce à ce drone, nous avons porté de sévères coups à l'ennemi. » Le commandant de l'unité de drones de la force terrestre du CGRI a fait part de la mise en service du drone Phobos par cette force dans environ 2 mois. Il a ajouté que les moteurs du drone Phobos devraient être optimisés en été. En Syrie, des sources civiles dans la banlieue de Deir ez-Zor ont indiqué que 2 soldats des forces d'occupation américaines avaient été la cible d'une attaque dans la banlieue est du gouvernorat. Les sources ont souligné aux correspondants de l'agence de presse syrienne Sana que des personnes inconnues avaient attaqué un véhicule en mer qui transportait des soldats de l'occupation américaine depuis le gisement d'Omar vers celui de Tank, ajoutant que le véhicule a été trouvé complètement brûlé et sans aucune trace des 2 soldats qui étaient dedans. Notons également que les combats entre les terroristes pro-Ankara dans la ville de Ras al Ain, en nord-ouest de Hasakeh, se sont intensifiés et étendus vers la banlieue de la ville. Des sources civiles dans la banlieue de Ras al Ain ont affirmé que d'intenses combats ont eu lieu entre les groupes terroristes relevant du soi-disant Ahrar al-Sharia et de celui de la Légion 20 à la suite de la tentative de ce dernier de s'emparer des positions dans le village de Heroubi à l'ouest de Ras al Ain. Nombre de terroristes ont été tués et blessés. Les sources ont ajouté que ces combats s'étaient étendus vers la banlieue ouest de la ville, précisément dans la ville de Mabrouka, et fait des tués et des blessés des 2 groupes. Rappelons par ailleurs qu'en dépit d'un vaste effort pour attirer les faveurs des Kurdes et faire d'eux à nouveau des mercenaires de l'Empire, les populations kurdes de Hasakeh s'en prennent aux forces américaines et une guérilla armée anti-US n'est pas à écarter. Après avoir examiné la structure démographique et des différences entre les Arabes et les Kurdes, les États-Unis misent aveuglés qu'ils sont par leur interminable étude think tankien sur de supposées divergences ethniques kurdes-arabes et projettent de là à créer une milice arabe rivale avec les FTS qui, elle, par ses liens avec la Russie et l'État syrien, risque de trahir les Américains. Pour cette raison, les Américains ont commencé à lancer des appels à recrutement à l'adresse des tribus arabes de l'Est de l'Euphrate, signe d'ailleurs que les Kurdes ne les ont pas trop suivis. Cela étant, ils croient pouvoir créer un levier de pression contre les forces démocratiques syriennes, les FDS. Ce dimanche 26 avril, les séparatistes yéménites du Conseil de transition du Sud ont annoncé qu'ils établiraient une administration autonome dans les régions sous leur contrôle. Le gouvernement local de la province de Socotra a rejeté le communiqué du Conseil de transition du Sud du Yémen, le qualifiant de coup d'État contre le gouvernement de Mansourati. La transition autoproclamée a lieu alors que les habitants du Sud du Yémen manifestent dans la ville d'Aden contre ce Conseil de transition et le gouvernement démissionnaire d'Abrabo Mansourati en raison de la coupure d'électricité qui dure depuis 5 jours dans la ville d'Aden. La panne d'électricité dans la province d'Aden s'est intensifiée en particulier après les inondations dévastatrices qui ont frappé le sud du Yémen. Le gouvernement de Mansour Hadi a accusé jeudi dernier le conseil de transition, soutenu par les Émirats arabes unis, d'avoir bloqué son retour à Aden. Dans leur guerre déjà perdue face à Ansar Allah, les États-Unis se sont déjà passés de l'axe Riyad Abu Dhabi, décidant d'agir de même sur la scène yéménite. Les troupes américaines ont déjà débarqué à Mahra, à l'est yéménite, et ont érigé avec les Britanniques une base à Socotra et une autre à Zourar. Aden sera donc la quatrième ville stratégique à passer sous leur férule par Émirats interposés. Ce second coup d'État anti-Hadi, Bab el-Mandab étant évidemment au centre de tous ces agissements. Que le Conseil de transition du Sud, soutenu par les Émirats arabes unis, ait annoncé l'état d'urgence et l'autoproclamation à Aden, et ce sur fond de protestation du gouvernement yéménite démissionnaire, soutenu par Riyad, cela ne peut ne pas avoir des liens avec ce stratégique détroit de Bab el-Mandeb où la Chine fait transiter trois quarts de ses marchandises vers l'Europe. Une Europe frappée de plein fouet par une épidémie de COVID-19, semblable à une troisième guerre qui, fort et curieuse, a fait de la Chine le vrai allié des Européens et des États-Unis leur vrai ennemi. C'est dans ce contexte que l'Amérique s'apprête à ériger à Aden son centre de commandement anti-chinois et qu'elle annonce avoir mis en état d'alerte ses forces à Djibouti, pays au gouvernement entièrement pro-chinois. Djibouti, qui abrite l'une des plus grandes zones de libre-échange est-africain made in China et où la Chine possède son unique base militaire extraterritoriale. Visiblement, la guerre contre la Chine va commencer non pas en mer de Chine, mais au Yémen. Reste que Pékin risque de payer là le prix d'une erreur stratégique, refuser de s'allier à la puissance émergente qu'est Ansar Allah pour quelques contrats d'armement signés avec Riyad. L'Arabie des Salman ayant perdu sa valeur pour les USA, la Chine se devra de chercher des alliés sûrs à Bab el-Mandeb. La Russie a déjà compris cet impératif et elle œuvre dans ce sens. Et enfin, pour fermer le journal, ce lundi 27 avril débute au Burundi la campagne électorale pour le triple scrutin prévu le 20 mai. Élection des députés et des conseillers communaux, mais également celle du président de la République. Une campagne qui s'achèvera le 17 mai. Pour l'élection présidentielle, sept candidats tenteront de convaincre les électeurs durant ces trois semaines de campagne. Parmi eux, il y a en premier lieu le général Évariste Ndayishimiye, qui portera les couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il est le dauphin de Pierre Nkurunziza, l'actuel chef de l'État qui ne se représente pas. Il affrontera notamment celui qui est présenté comme le principal opposant, Agathon Rwasa, meneur du nouveau Conseil national pour la liberté, le CNL, agréé il y a un peu plus d'un an. Il y aura également Domitien Ndayizeye, président de transition entre 2003 et 2005, aujourd'hui à la tête de la coalition Kira Burundi. Comme trois autres prétendants, sa candidature avait d'abord été rejetée par la commission électorale, mais il a finalement gain de cause après un recours à la Cour constitutionnelle. Chacun des sept candidats retenus et leur équipe devront s'exprimer chaque jour entre 6h et 18h. Toute propagande en dehors de cette période est interdite, précise un décret de la CENI qui fixe le cadre de cette campagne. Alors que des opposants accusent justement le parti au pouvoir de mener campagne depuis un certain temps et la CENI de fermer les yeux. De leur côté, les acteurs de la société civile sont déjà mobilisés après la crise politique de 2015 et l'échec du dialogue lancé sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ces organisations ont en effet mis sur pied un projet conjoint de suivi des violations des droits de l'homme. Dans un communiqué, elles invitent les autorités à garantir la sécurité de toute la population en cette période électorale où les opposants sont régulièrement menacés, ainsi qu'à respecter scrupuleusement les droits électoraux des candidats et des électeurs. Une campagne qui se déroulera par ailleurs sous la menace du coronavirus. 15 cas ont officiellement été déclarés un décès dans le pays. Et si le ministère de la Santé a adressé des recommandations, des points pour se laver les mains notamment, aucune restriction n'a pour l'heure été annoncée concernant les meetings et réunions publiques. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute des deux commentaires politiques. amique s'écrase en Syrie, casus belli turco-israélien à la Russie. C'est le titre du premier commentaire politique. C'est une première depuis la fin de la bataille d'Idlib que l'axe USA-OTAN ont lamentablement perdu. Il y a quelques heures, un MiG-21 de l'armée de l'air syrienne s'est écrasé à Hama, au nord-est syrien, non loin des positions de l'armée turque et de ses mercenaires à Idlib, à en croire Aviapro. Presque simultanément, un drone turc a pris d'assaut un sit-in des terroristes pro-Ankara qui, à en croire les médias turcs, aurait barré l'autoroute M4 face à une patrouille de l'armée turque attaquée à l'occasion par ces mêmes sit-ineurs. On fait croire que le drone voulait punir les terroristes Hayat Tahrir al-Sham comme l'a promis Erdogan à Poutine. Un falso flaque à la turque, destiné à camoufler l'activation des batteries de missiles antimissiles solaires MIM-23 AUK qu'Ankara a déployé à la faveur de soutien logistique US à Idlib au lendemain de sa cuisante défaite à la fin février, et ce, en attendant les jours meilleurs. Toujours est-il que, fidèle à leur parfaite synergie en Syrie, la Turquie s'est fait prêter la main forte par Israël pour ce coup fourré à consonance particulièrement anti-russe. Ce lundi 27 avril, aux premières heures de la matinée, les missiles israéliens ont été tirés depuis le ciel du Liban sur la capitale Damas, histoire de dévoyer la DCA syrienne. Celle-ci y a évidemment répondu comme toujours avec force et a quitté en interceptant plus de la moitié des missiles tirés. N'empêche que l'acte porte trop la signature Israël-Turquie pour pouvoir échapper aux analystes. Surtout que les médias turcs font un tas de ce raid aux drones qui auraient visé les positions des terroristes d'Hayat Tahrir al-Sham dimanche. Le STRH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dit: des drones turcs ont attaqué dimanche 26 avril un véhicule transportant des membres d'Hayat Tahrir al-Sham dans la campagne orientale du gouvernorat d'Idlib près de la ville d'Al-Nayrab. L'attaque a entraîné la mort d'au moins deux membres de ce groupe terroriste. La frappe de drones turcs est intervenue en réponse à l'attaque de Hayat Tahrir al-Sham contre les postes d'observation de l'armée turque dans le gouvernorat d'Idlib. Toujours en croire à l'ESTH, les forces armées turques auraient même ouvert le feu sur un sit-in Al-Karama sur l'autoroute M4, tuant ainsi quatre de ces derniers, dont deux membres de Hayat Tahrir al-Sham. Pour l'observateur averti, cette fable, colportée par le STH, perd tout son crédit au contact de la réalité qui, elle, voit Ankara s'agiter comme jamais pour alimenter l'afflux des terroristes depuis Idlib vers la Libye, où elle a ouvert un autre front anti-russe, entre autres, à l'instigation de l'axe USA-OTAN. Comment la pandémie de coronavirus a secoué l'armée américaine? C'est le titre du deuxième commentaire politique. La chaîne de télévision CNN examine les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la nature de l'armée américaine. Dans un article publié le dimanche 26 avril sur le site web de CNN, Barbara Estar, la correspondante de la chaîne américaine au Pentagone, a examiné comment la pandémie de coronavirus pouvait changer la nature de l'armée. Le docteur Anthony Fauci et le docteur Deborah Briks, deux des principaux conseillers du président américain Donald Trump en matière de coronavirus, se sont rendus jeudi au Pentagone pour rencontrer le général Mark Milley, le chef d'état-major des armées des États-Unis, afin de discuter des efforts des militaires pour gérer la pandémie de COVID-19 et de l'expertise médicale nécessaire pour protéger les 1,4 million de militaires américains. Les responsables présents à cette réunion ont souligné un problème critique de sécurité nationale qui n'a pas été évoqué en détail par le président. Le défi de s'assurer que l'armée soit prête à combattre la pandémie. Alors que les États-Unis se préparent à une éventuelle deuxième vague de virus cet automne, les obstacles auxquels est confronté le Pentagone sont énormes. Et au-delà du maintien du fonctionnement militaire, il y a une prise de conscience que la pandémie pourrait bouleverser la géopolitique et créer de nouvelles menaces imprévisibles pour la sécurité nationale des États-Unis. l'un des indicateurs les plus clairs du niveau de préoccupation au sein du Pentagone est le fait que le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a imposé des limites strictes à la quantité d'informations partagées avec le public américain. Bien que le Pentagone publie chaque jour des informations sur le nombre de membres du personnel qui se sont révélés positifs pour le virus, l'armée ne divulgue pas d'informations qui, selon elle, révéleraient des faiblesses dans l'état de préparation américain qui pourraient être exploitées par des adversaires. Il y a de nombreuses raisons pour s'inquiéter alors que la crise de coronavirus continue. Le virus a obligé l'armée américaine d'annuler les exercices, a brièvement interrompu le processus de recrutement de soldats et a ramené le Roosevelt au port après que plus de 800 marins ont été testés positifs et un est décédé. Maintenant, plus de 40 navires de guerre de la marine ont eu un ou plusieurs marines positifs. Et vendredi, CNN a appris qu'il y avait au moins 18 cas à bord de l'USS Creed, qui est en mer dans le Pacifique Est et doit maintenant trouver un port. Le nombre de cas a été passé à 33 samedi, selon la marine américaine. Il y a près de 4000 cas parmi les forces en service actif, mais l'épidémie à bord de Roosevelt a provoqué le plus d'anxiété dans la communauté médicale militaire. Au-delà de l'objectif pratique de maintenir l'état de préparation, on comprend de plus en plus que la nature de l'armée américaine, ce qu'elle fait et le concept de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale peuvent être modifiés par la pandémie. Est-ce que les affaires prennent comme d'habitude? Non, je ne pense pas, a déclaré Milley, plutôt ce mois-ci au Pentagone. Lorsqu'on lui a demandé ce qui se passerait ensuite, Milley a suggéré que la pandémie signifie que la nature des menaces pesant sur les États-Unis est en train de changer. C'est le défi. Le Pentagone devra anticiper et réagir avec agilité, car la prochaine menace majeure pourrait ne pas venir de Chine ou de Russie. Il pourrait s'agir d'une autre pandémie, d'une cyberattaque ou même d'un changement climatique qui paralyse une armée qui dépend toujours des milliards de dollars de dépenses pour ses navires, avions, chars et missiles.